Les voies de service, mercredi le 28 février 2018. Bonjour, ici Daniel Lachance, au micro de Canal M, qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission, Les voies de service. Notre collègue Isabelle Falardeau est absente ce matin, donc c'est ma voix que vous allez entendre et celle de mon collègue Serge Baradet. Bonjour Serge, vous allez bien ce matin?
Oui, soit on prend rétablissement Isabelle.
Oui, Isabelle qui devrait être de retour avec nous la semaine prochaine. De quoi allons-nous parler, Serge, aujourd'hui?
Moi, eh bien, j'ai trouvé dans la presse de samedi un article sur la longue lutte du sport au féminin.
OK.
Du sport féminin.
Sport féminin,
oui. Ouais. Ensuite, il y a un 50e anniversaire qu'on célèbre cette année. Je ne vous dis pas de quoi c'est, de que c'est, mais
bon,
ça...
Bon,
ben
il y en a quand
fait...
même plusieurs 50e cette année.
Oui, oui, oui. Mais c'est un peu controversé, mais je décide de vous en parler quand
okay,
même.
Okay,
là,
bon.
Et puis, dans la presse aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant. Trump va-t-il tomber?
Ah.
C'est pas de l'histoire que je... Mais comme on n'est que deux, mais j'ai trouvé en feuilletant, en regardant la presse ce matin, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis également, j'ai des petits trucs de ma revue itinéraire, si on a du temps, que je vais compléter avec ça.
Et moi, de mon côté, j'ai trouvé quelque chose justement qui date de 50 ans, mais vous n'avez pas voulu le noter. Je ne le dis pas non plus. Je parlais d'un album qui est paru il y a 50 ans. Et en deuxième partie, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu délicat, mais c'est un livre qui a été écrit sur le milieu de la musique avec un petit peu le mouvement MeToo qu'on entend parler beaucoup dernièrement. Et aussi, j'ai un article, étant donné que notre collègue Isabelle n'est pas là aujourd'hui et qu'habituellement, il nous parle de culture autochtone, j'ai trouvé un article qui pourrait être intéressant. Je vais un petit peu jouer dans ces plates-bandes. Donc, je vous reviens avec ça tantôt. Donc, Serge, vous commencez par le 50e, le sport?
Non, le sport, oui.
Bon, okay.
Alors, la longue lutte du sport féminin, c'est dans la presse de samedi. Une opinion de Laurent Turcot. Alors, Laurent Turcot est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs. Les Jeux olympiques qui se sont terminés la fin de semaine dernière, femmes et hommes ont pu se mesurer pour le triomphe ultime durant ces compétitions. Pourtant, le sport féminin a longtemps fait l'objet d'un opprobre. Pour plusieurs, dans l'histoire, le sport a été l'affaire des hommes. C'est faux. On retrouve plusieurs femmes pratiquant des sports de l'Antiquité à nos jours. Des lutteuses aux nageuses en passant par les coureuses. Seulement, voilà, au 19e siècle, le sport devient presque exclusivement masculin. Les femmes, de leur côté, sont marginalisées, sinon exclues. Considérées comme fragiles physiquement, elles devaient demeurer sexuellement chastes et se soumettre aux hommes. La pudeur conquiert... Il y a de quoi faire dresser tout sur la tête.
Ah, pour ceux qui en ont, moi, je n'ai pas de cheveux. C'est écrit.
Je fais juste lire.
Les propos émis dans cet article...
N'engage pas les lecteurs. Ni vus et voix. La pudeur conquiert un territoire de plus en plus important. Le corps est enserré, on se rappelle les fameux corsets du 19e, là, et doit répondre avant toute chose au désir masculin. On considère que les sports, par la vigueur et l'émotion qu'ils provoquent, sont impropres aux femmes bourgeoises. Celles de conditions plus modestes sont alors trop occupées à tenir leur ménage, à élever leurs enfants et ou à remplir un emploi pour avoir l'énergie et du temps à consacrer au sport. Il faut dire aussi qu'au 19e siècle, la grande majorité des populations dans les pays vivaient de l'agriculture.
Ouais.
Alors les femmes travaillaient sur les fermes. Travaillaient
les grosses familles aussi.
Oui, ben c'est ça. Mais ça change au milieu du 19e siècle. L'exercice physique est de nouveau considéré comme un facteur favorable et non préjudiciable à la santé des femmes. Un personnage apparaît alors, celui de l'impératrice Sissi, qu'on a vu dans les fameux films, c'est joué par Romy Schneider. En cette année 1860, l'impératrice fait sensation en faisant du cheval et en se soumettant à des exercices sportifs. Cependant, on reste encore dans une conception de la femme inférieure, car ces dernières devaient monter en cheval en Amazone,
ah oui.
les jambes sur le côté. Pourquoi? pour ne pas provoquer de sensations interdites et ne pas avoir le pommeau de la selle au niveau du sexe. Et voilà. Entre 1860 et 1900, les femmes préparent le terrain à un siècle de lutte dont le point culminant serait l'obtention des droits pleins et entiers pour l'ensemble des citoyennes de sexe féminin. Les femmes de la classe moyenne, en particulier les enseignantes, rejettent de plus en plus fermement la notion d'un corps féminin faible et passif. L'idée est bientôt partagée par de nombreuses directrices d'école britanniques qui entreprennent de créer leur propre version des sports scolaires. On adapte certaines activités masculines, comme la gymnastique suédoise, le tennis, le hockey, et même encore le netball, variante britannique du basketball américain. Les femmes des classes populaires sont cependant exclues par le mariage précoce et par les maternités, et elles n'ont que peu d'occasion de pratiquer ces activités à l'école. Et ce, même si une éducation physique est fournie aux filles dans les écoles. Les premiers collèges spécialisés en éducation physique ouvrent en Angleterre à la fin du 19e siècle. En 1898, Dorothy Wilkie, qui ouvre la Chelsea School for Physical Training, déclare cependant « J'espère qu'en fin de compte, mes filles ne seront jamais obligées d'enseigner. Je veux qu'elles se marient et soient aussi heureuses que possible.
Mm-hmm. »
C'est ce qui faisait le bonheur.
Comme ça va ensemble.
Mais, le mariage demeure la carrière de la plupart des filles des classes moyennes. Pourtant, une fois dans la vie domestique, elles ont vite fait d'engager des domestiques, des femmes de ménage, des cuisinières et des nounous, ce qui leur laisse du temps libre pour s'adonner à des activités de loisirs, parmi lesquelles le tennis et le golf. Les clubs de golf deviennent partie intégrante du réseau social des banlieues et se multiplient rapidement à la fin du 19e siècle. Le Stanmore Golf Club, au nord de Londres, comporte dès sa création une section réservée aux dames qui disposent de leur propre parcours. Le golf, qui exige un mouvement souple et gracieux, fait de précision et de rythme, beaucoup plus que de force, cadre alors parfaitement avec l'idée que l'on se fait de la femme. Le tennis remporte un succès encore plus grand auprès des femmes, notamment parce que les clubs sont plus petits, moins chers à gérer et mieux situés que ceux de golf. On enseigne le tennis dans les écoles privées de filles et les doubles mixtes sont considérés comme un excellent moyen de faire se rencontrer les jeunes gens à marier. Ouais. Le tennis féminin de compétition trouve très vite sa place au tournoi de Wimbledon, évidemment, où les femmes sont accueillies dès 1884, quand même. Lottie Dodd dit la petite merveille, qui est également joueuse de hockey, golfeuse, patineuse et tireuse à l'arc exceptionnel, gagne le premier de ses 5 titres en 1887 à l'âge de 15 ans. Malgré ses réussites, elle est loin de constituer un modèle à reproduire par les filles de la classe moyenne en Angleterre. Pour une jeune fille, il est plus important d'être gracieuse et séduisante que de bien jouer sur un court. Le marché matrimonial que constitue la pratique du tennis est souvent plus important que l'enjeu sportif. Les femmes portent ainsi des robes, des chapeaux et des blouses à manches longues. Leur tenue est davantage dictée par l'objectif de séduction que la victoire. En cette fin du 19e siècle, on est loin de permettre d'encourager le sport féminin. Pour ça, il va falloir attendre encore plusieurs années, sinon des décennies. Imaginez-vous, il y a une image, si on voit la tenue de golf d'une dame.
Oui, ça devait être très confortable.
Oui. C'est un peu encombrant, mais en tout cas, il réussit.
Ça a changé un peu quand même.
Oui, mais il faut dire que c'est pour une bonne cause, hein, se chercher un partenaire
raison.
De vie.
Il y avait une raison valable.
Ouais, ouais. Alors voilà.
Donc, il y a 50 ans, il est arrivé plein de choses il y a 50 ans, mais je vais vous devancer, Serge, je vais commencer par mon article. Un article que j'ai trouvé dans Le Voir, je ne vais pas le lire au complet parce qu'il est très long, ça prendrait presque toute l'émission, mais je vais en lire une bonne partie, c'est assez intéressant. Il y a 50 ans, Leonard Cohen a publié l'album « Songs of Leonard Cohen ». Pièce maîtresse de cet album en devenir, Suzanne, sa chanson la plus connue, met du temps avant d'arriver à sa version finale. « Je l'ai écrite à Montréal en l'espace de 4 ou 5 mois », raconte-t-il à BBC. Parfois, la chanson partait sur une tangente et des couplets très respectables en ressortaient, Mais cela m'éloignait de la sensation originale de la chanson. Donc, il fallait revenir à l'essence. C'est un processus très pénible car il implique de jeter beaucoup de bonnes choses. Donc, Leonard Cohen, c'est quelqu'un qui travaillait de façon assez acharnée. Il prenait beaucoup de temps à écrire une chanson en général. L'angle se précise à travers trois couplets bien précis, inspirés par une anecdote relativement banale de la vie du chanteur. L'épouse d'un de mes amis se nommait Suzanne Verdal, la conjointe du sculpteur Armand Vaillancourt, et elle m'avait invité chez elle tout près du fleuve Saint-Laurent, poursuit-il. Et elle m'a servi un thé à l'orange, je crois que c'était la marque Constant Comment, et j'ai apprécié son hospitalité. Plus ou moins, la chanson documente ceci dans le premier couplet. Ensuite, parce que Montréal est une ville religieuse et qu'il y a des symboles de toutes les grandes confessions un peu partout, il y a ce couplet à propos de Jésus. Et ensuite, le dernier couplet tente de résumer en quelque sorte le genre de compassion et d'attention qu'un homme cherche à recevoir d'une femme. Satisfait du résultat, il appelle sa bonne amie Judy Collins. Je lui ai téléphoné et j'ai blotti le téléphone entre mon oreille et mon épaule et je lui ai joué Suzanne. Ça devait être un peu inconfortable, mais
oui.
Il a joué ça au téléphone. Et elle a dit, je vais l'enregistrer cette semaine en studio. Donc, la chanson a été enregistrée par quelqu'un d'autre avant le Norcon. L'album « In My Life » de la chanteuse paraît en novembre 1966 et devient son album le plus vendu à ce jour. Grâce au texte de Suzanne, l'une des chansons marquantes du disque, Cohen attire l'attention de John Hammond, responsable de la production chez Columbia Records. Celui-ci a joué un rôle important dans l'éclosion des carrières de Billie Holiday, Pete Seeger, Aretha Franklin, Bob Dylan, pour ne nommer que ceux-ci. Le producteur rencontre Cohen à l'hôtel Chelsea sur la 23e rue. Après avoir discuté au restaurant, les deux futurs complices montent à la chambre du chanteur. « Je lui ai chanté 6 ou 7 chansons. Il n'a pas dit un mot entre chacune d'elles. À la toute fin, il m'a dit « Tu l'as eu, Leonard. » J'imagine en anglais, il doit avoir dit « You got it. » Je ne savais pas trop si ça impliquait un contrat, mais cela m'a certainement fait sentir très bien. Heureux de sa découverte, Hammond retourne au studio de Columbia, mais ses collègues ne partagent pas son enthousiasme. Tous se demandent comment ils vont réussir à vendre au public ce poète canadien de 40 ans. C'était pas très vendeur à l'époque. On est en 67 à ce moment-là, 67-68. Songs of Leonard Cohen paraît en magasin le 26 décembre 1967, effectivement, et reçoit des critiques mitigées à l'international. Une critique du New York Times place Cohen quelque part entre Schopenhauer et Bob Dylan, deux autres poètes proéminents du pessimisme. Le succès populaire est toutefois convaincant. En plus de rester dans les palmarès britanniques et australiens pendant plus d'un an, l'album atteint la 83e place du Billboard 200 et finit par recevoir la certification or aux États-Unis pour 500 000 copies vendues en 1989. Devenu culte, Songs of Leonard Cohen est intronisé au Grammy Hall of Fame en 2015, un honneur remis uniquement aux albums de qualité à la signification historique. Grâce à cet opus, pierre angulaire de son faste parcours musical qui aura influencé un nombre impressionnant d'auteurs-compositeurs-interprètes comme Nick Cave, Kurt Cobain, Suzanne Vega et Jeff Buckley, Cohen a su faire sa place sur la scène folk américaine. Chez nous, son tracé hors Québec aura pavé la voie à plusieurs artistes aux ambitions internationales, comme les sœurs McGarrigle, David Wilcox, Uzeb, et plus récemment, toute la scène indie montréalaise menée par Godspeed You, Black Emperor, Wolf Parade, Arcade Fire, etc. 50 ans plus tard, John Simon n'a que de bons mots pour cet album. « Suzanne est magnifique. J'adore cette chanson. Les cordes et les filles avec l'intensité des chœurs et la guitare forment une texture sonore somptueuse. Hey, That's No Way to Say Goodbye est une de mes préférées. Comme dans Suzanne, on retrouve la guitare à la tierce par rapport à la voix. Les paroles de The Stranger Song m'ont fait réfléchir. Bob Dylan a ouvert la voie en trouvant un public qui veut entendre des textes plus profonds, moins banals, mais Leonard fait preuve de plus de finesse encore. En général, sa versification est plus rigoureuse, ses rimes plus justes, dit-il par courriel, citant en partie une entrevue qu'il a accordée à la biographe, Sylvie Simmons. Chris Darrow garde lui aussi un souvenir marquant de cet album. Maintenant résident de Claremont, petite ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Los Angeles, il a revu Leonard Cohen il y a quelques années alors que ce dernier était en retraite bouddhiste dans son coin de pays. Un jour, j'étais au centre-ville et je l'ai vue avec une amie en train de manger à l'extérieur d'un restaurant grec. Sa tête était rasée, il portait une robe de moine et il était en train de fumer, se souvient-il. Je lui ai demandé « Tu te souviens de moi? » Et il a répondu « Bien sûr que oui, c'est vous qui avez sauvé mon album. » Puis il a poursuivi la discussion en m'expliquant que notre collaboration lui avait permis de réaliser la vision qu'il recherchait pour son premier album. Donc ça, c'est une partie de l'article qui est paru dans Le Voir. Si ça vous intéresse de le lire au complet, c'est très intéressant. Et je voudrais vous rappeler en passant, petite auto-promotion, je fais une nouvelle émission qui s'intitule « Table tournante ». Et je vais faire jouer au complet, pas cet album-là, mais l'album « I'm Your Man » de Leonard Cohen, le 17 mars, samedi le 17 mars prochain, on commente l'album et tout ça.
À quelle heure
c'est? C'est à 15h sur Canal M, samedi le 17 mars 2018.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Vous avez sans doute reconnu Suzanne par Leonard Cohen.
Donc, Serge, c'est à votre tour de nous.
Oui, dans la presse d'aujourd'hui, j'ai lu un article très, très intéressant que je vais vous le lire, on va partager ça. C'est une entrevue avec Michael Wolff, qui a écrit le livre Fire and Fury, l'entrevue s'intitule « Trump va tomber ». Assure l'auteur.
Ça fait un an qu'on entend ça.
Hein? Oui, oui, oui. Alors, c'est Jean-Christophe Florence de La Presse qui a rencontré l'auteur à Paris. Alors, quelques mots sur l'auteur pour commencer. Je m'en vais à la fin. Youp, là, à la fin de l'article. Alors, reporter spécialiste des médias, Michael Wolff, 65 ans, est un phénomène au sein du journalisme américain. On lui doit une dizaine de livres, dont une biographie du magnat de la presse, Rupert Murdoch, et des collaborations à des publications aussi prestigieuses que GQ, Vanity Fair et le magazine New York. Ces méthodes ne font toutefois pas l'unanimité. Alors, juste un petit avertissement comme ça.
Ouais, apparemment, il a été souvent critiqué qu'il apportait des faits.
Alors, les crises, les tensions, chaos, il a tout vu. Pendant ces 7 mois, le journaliste Michael Wolff a arpenté la Maison-Blanche pour raconter les premiers pas de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique. Le livre qu'il en a tiré est loin d'être flatteur. Fire and Fury, Inside the Trump White House, brosse le portrait d'une administration dysfonctionnelle, rongée par les luttes intestines et les incohérences de son leader, décrit comme un être paranoïaque et profondément inculte. Vendu à 2 millions d'exemplaires chez l'Oncle Sam, le brûlot de Michael Wolff vient d'être traduit en français sous le titre « Le feu et la fureur » et sort en librairie aujourd'hui au Québec. La presse l'a donc rencontré à Paris. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il pu aller venir aussi impunément dans l'entourage immédiat du président pour en tirer un portrait aussi dévastateur? C'est une question que je me suis posée en premier quand j'ai entendu parler
général,
de ça.
Se promener dans la...
C'est la question qu'on pose invariablement à Michael Wolff quand on parle de son livre « Choc » sur les premiers mois de l'administration Trump. Chaque fois, le journaliste répond essentiellement la même chose. « Je suis allé le voir, j'ai demandé l'autorisation, je lui ai dit « c'est pour écrire un livre ». Il m'a dit « ben, faites-vous plaisir ». Ça correspond à un personnage.
Mais pour un personnage de télé-réalité, je pense que c'est pas nécessairement surprenant.
Non, c'est ça, oui. Alors, j'ai pris ça pour un oui, lance le petit homme aux allures de banquier qui rencontrait la semaine dernière la presse parisienne. Pendant 7 mois, Wolff s'est donc promené à sa guise à la Maison-Blanche, se fondant littéralement au papier peint. Il a passé des heures assis sur un canapé à voir, à écouter, à renifler, recueillant plus de 200 heures de témoignages parmi la garde rapprochée du nouveau président, incluant le conseiller Steve Bannon, qui s'est largement confié à lui, à son grand regret d'ailleurs. Wolff s'attendait, certes, à être surpris, mais peut-être pas autant que ça. Assez rapidement, il est devenu évident à ses yeux que Trump et son équipe étaient loin d'être prêts à gouverner, offrant le tableau effrayant d'une administration chaotique, déchirée et dysfonctionnelle. Au départ, je voulais simplement écrire sur le personnage de Trump, raconte Wolff. Si cette figure improbable avait été capable de réussir sa présidence, ça aurait déjà été une bonne histoire. Mais au bout du compte, le fil conducteur s'est révélé être les personnages qui l'entouraient. J'ai été surpris de voir à quel point leurs impressions et leurs réflexions sur le président changeaient en cours de route. Michael Wolff dit, à propos du président Trump, « En 7 mois, la totalité de ses conseillers est passée de la certitude à la confusion, à la déception, à la désillusion et finalement à l'incrédulité. Tous, sans exception, sont arrivés à la conclusion que cette personne ne pouvait pas remplir les fonctions nécessaires à ce boulot. »
Encourageant, hein?
Oui, venant de ses collaborateurs. Wolff a aussi été surpris par l'hostilité régnant à la Maison-Blanche. Il décrit un environnement toxique où s'affrontaient des vues inconciliables dans une atmosphère à trancher au couteau. D'un côté, le groupe Yarvanka, constitué du binôme Jared Kushner et Ivanka Trump, tendance démocrate new-yorkaise. De l'autre, le chef d'équipe Reince Priebus, représentant le côté républicain traditionnel, et finalement plus loin, l'ultranationaliste Steve Bannon, adepte du bouleversement total. Ces trois groupes n'auraient jamais pu arriver à un consensus. Il leur était totalement impossible de se retrouver sur un point de vue politique, dit-il. Ils se détestaient d'une façon qui excède largement les rivalités d'un environnement de travail. Si on avait été à une autre époque, ils se seraient probablement tués les uns les autres.
Game of Thrones.
Oui. Et comme les armes ne sont pas contrôlées aux États-Unis...
Oui, effectivement, ça aurait pu virer en carnage.
Dans un monde logique, Donald Trump aurait pu à un moment donné, créer un consensus entre ses forces opposées. Mais l'homme paranoïaque, incohérent et quasiment illettré que décrit Wolfe, était apparemment beaucoup trop incohérent pour un tel défi. Il n'y a pas de connexion entre ses phrases et ses idées, sans parler de ses incroyables crises. Le résultat net de tout cela est un énorme chaos, résume Wolfe. Et la suite? Alors que Donald Trump amorce sa deuxième année au pouvoir, on pourrait imaginer que le navire se redresse. Mais Michael Wolfe se dit pessimiste. À quelques mois des élections de mi-mandat, qui auront lieu en novembre, le président est plus que jamais à la barre d'un bateau qui prend l'eau. La suite s'annonce encore plus stupéfiante et alarmante, lance Wolfe. Trump n'avait peut-être pas une équipe d'élite au début, mais il était quand même entouré de professionnels de la politique. Le problème, c'est que la plupart sont partis, ou soit sur la voie de sortie. L'exode a été spectaculaire à un niveau qu'on voit rarement après seulement 7 mois. Le journaliste souligne qu'actuellement, ses deux conseillers principaux, tenez-vous bien, sont une femme de 29 ans, Hope Hicks, ancienne relation... Bon, bien sûr, la valeur n'est pas le nombre des années, mais quand même, là.
L'expérience peut compter.
Ouais, ancienne relationniste dans le domaine de la mode.
Mm-hmm.
Bon. Et un jeune homme, Stephen Miller, que Bannon présentait il y a encore 3 mois comme son secrétaire.
Bon.
Rien pour aider. On ne se précipite même plus pour travailler à la Maison-Blanche, de crainte que ça ne nuise à la suite de sa carrière. Personnellement, moi,
effectivement, ouais, dans un
sujet, je suis gêné de le dire. Ouais. Ouais, ouais. Dans un tel contexte, Michael Wolfe voit mal comment Trump pourrait achever son premier mandat. Selon le journaliste, il est probable que le rapport Mueller sur l'ingérence russe annoncé pour l'été prochain précipitera la chute du président. Son gendre, Jared Kushner, risque d'être arrêté pour son implication dans le dossier, rien de moins. Tout comme il est probable que les démocrates regagnent leur majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, ce qui pourrait ouvrir la voie à une destitution en bonne et due forme de l'actuel président, même si le Sénat, lui, reste acquis aux républicains. Tous les scénarios sont possibles, mais d'une manière ou d'une autre, Trump va tomber, tranche Wolfe, sans l'ombre d'une hésitation. Peu importe la façon, ce ne sera pas beau, il y aura beaucoup de sang. Un extrait du livre en terminant. Les moments d'improvisation de Trump sont toujours existentiels, plus pour ses assistants que pour lui. Il s'exprime sans complexe et avec plaisir, se prenant pour un bon humoriste, un amateur public, tandis que tout son entourage retient son souffle. S'il se produit un cafouillage quand ses remarques partent dans tous les sens, son état-major doit recourir à la méthode Stanislavski pour trouver la parade. Il faut une discipline rigoureuse pour ne pas admettre ce qui saute aux yeux de tous.
Voilà. Eh bien, l'avenir nous dira
ouais,
s'il a raison ou
ouais,
non.
Ouais, 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 ouais.
Et ça s'y met fin à la première partie de l'émission Les Voix de service du 28 février. On vous revient dans quelques minutes après ces messages. On est de retour à l'émission Les Voix de service avec Serge Bradet et Daniel Lachance, en l'absence de notre collègue Isabelle Falardeau. Et parlant d'Isabelle, habituellement, elle nous parle de sujets qui concernent la culture autochtone.
Oui, oui.
Alors, je me suis dit, peut-être que les gens s'attendent à voir un article qui va parler de culture autochtone. Donc, j'en ai trouvé un. Et c'est parce que, dans le fond, c'est un peu un hasard. J'ai trouvé cet article-là dans un journal de la Rive-Sud qui s'appelle Le Reflet. Et ça m'a un peu, pas abasourdi, mais en tout cas, ça m'a surpris. J'avais jamais entendu parler d'une situation comme celle-là. C'est quelque chose qui est arrivé récemment. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec un peu de sérieux quand même. Je veux dire, il ne faut pas faire de blagues avec ça. Un article est paru le 15 février dans le journal Le Reflet, écrit par Valérie Lessard. Et le titre, « Un Mohawk quitte l'hôpital avec la dépouille de son père ».
Oh.
En partant le titre, ça nous porte à lire un peu l'article pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Un Mohawk traditionnaliste est reparti de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay avec la dépouille de son père le mardi 13 février pour respecter les rites funéraires autochtones. Le centre hospitalier se dit ouvert à accommoder la communauté de Kanawake, mais doit voir comment elle peut le faire tout en respectant la loi. Le père de Stuart Mihau est décédé chez lui en matinée le 13 février. M. Mihau raconte dans une vidéo sur les médias sociaux qu'après la mort de son père, ce dernier a été transporté par une ambulance de Kanawake vers l'hôpital à Nalaberge pour que son décès soit constaté par un médecin. Ça, je pense que c'est la loi.
Oui, oui, c'est la loi.
Mm-hmm. Bon. Stuart Mihau, qui représente le clan des loups dans le conseil traditionnel Mohawk, tenait à ce que son père soit enterré le jour de son décès avant le coucher du soleil pour respecter la tradition autochtone. La bureaucratie d'Annalaberge nous dit que si on le fait entrer dans l'hôpital pour la déclaration de décès, ils ne pourront pas le libérer, explique-t-il dans une vidéo filmée dans le garage des ambulances de l'hôpital. La seule façon de le libérer est qu'une maison funéraire vienne le chercher. Ça aussi, j'imagine, ça fait partie de la loi, j'ai jamais été confronté à ça. Stuart Mihau refuse que son père soit embaumé car, dit-il, il ne veut pas que des fluides poison polluent la terre. Un Mohawk, à cause de la bureaucratie, ne peut être enterré selon nos propres lois, déplore-t-il. La porte-parole de l'hôpital Annalaberge, Jade Saint-Jean, a confirmé au réseau TVA que l'établissement était obligé de remettre le corps à une entreprise funéraire accréditée. C'est la première fois qu'une demande du genre était formulée. Ça, c'est ça qui m'a surpris un peu, parce que quand même, l'hôpital n'est pas loin d'une réserve. Même Madame Saint-Jean précise qu'à la suite de la demande de ce résident de Kanawake, des employés d'Annalaberge ont entrepris des démarches pour voir s'il y avait une façon de faire, une procédure qui nous aurait permis légalement d'accommoder cette famille-là. C'est à ce moment que l'homme a réussi à quitter les lieux avec le corps de son père. M. Mihau raconte que son père a été enterré avant le coucher du soleil, comme il le désirait. À la suite de cet incident, Mme Saint-Jean indique que l'hôpital est entré en contact avec une personne ressource à Kanawake pour mieux comprendre la tradition autochtone. On veut comprendre quels sont leurs rites et volontés. Nous sommes ouverts à les accommoder, mais on doit pouvoir le faire dans un cadre légal, explique-t-elle dans une entrevue accordée au Soleil de Châteauguay. Le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest travaille présentement sur sa politique de gestion des corps. Mme Saint-Jean mentionne qu'une procédure plus standardisée en lien avec les rites autochtones pourrait y être ajoutée. Le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a contacté la police de Châteauguay à la suite de cet événement. Le sergent responsable des relations médias à la police de Châteauguay, Jean-Philippe Hurteau, confirme qu'une enquête est en cours dans ce dossier, mais aucune arrestation n'a eu lieu jusqu'à maintenant. Il précise que la police de Châteauguay travaille de concert avec les procureurs au palais de justice de Valleyfield et les Peacekeepers de Kanawake. Quand même assez particulier comme histoire, parce que depuis le temps, c'est la première fois que j'entends parler d'une chose.
Mais je me demande si un médecin est allé dans la réserve donner le certificat de décès.
Je suppose que ça pourrait se faire. C'est peut-être la difficulté, c'est de faire déplacer un médecin pour un... Mais c'est peut-être que c'est le genre d'arrangement qui pourrait se prendre éventuellement.
C'est pas la première fois que quelqu'un meurt.
Effectivement.
Alors, qu'est-ce qu'ils font pour les...
Je suppose qu'habituellement, ils laissent passer selon la loi, je sais pas.
Puis également, je savais pas qu'il fallait qu'ils soient enterrés la même journée avant le coucher du soleil.
Oui, mais ça, ce que je comprends, c'est peut-être qu'on va pouvoir y revenir éventuellement. Avec Isabelle, ce que je comprends, c'est qu'on parle ici d'un traditionnaliste là, qui voulait vraiment respecter les rites.
Okay,
Peut-être que les autres sont moins...
Parce que c'est près de les hindous. Quand quelqu'un décède, les hindous, il faut qu'ils soient enterrés dans un temps très, très court.
Il y a toutes sortes de rites.
Les musulmans aussi, je pense.
Peut-être. Je ne connais pas vraiment.
C'est très rapide, là. Il n'y a pas d'exposition de 3 jours comme nous, je pense. Là.
Non, c'est ça. Ce qui devient délicat un petit peu, c'est que là, je suis certain qu'il y a plein de monde qui vont dire « Ah, encore des accommodements raisonnables. » Moi, l'affaire qui m'a frappé là-dedans, c'est en général, quand on parle d'accommodements raisonnables, c'est pour des nouveaux arrivants. Eux étaient ici avant
ben
nous,
les Mohawks. Oui.
Je ne sais pas si on... C'est peut-être pas tout à fait la
même. Non, c'est pas la même chose. On parle pas de la même
en tout
chose,
cas, l'histoire nous le dira. Peut-être qu'on aura des suites de cet événement-là. Je vous tiendrai au courant. Je refilerai l'article à Isabelle si on a une suite.
Ben, comme elle nous écoute sûrement, elle est très consciencieuse. Et très, alors, elle doit nous écouter. Fait qu'elle a... on attend ça à la prochaine émission.
Isabelle, à prendre en note, on veut un rapport sur la
mercredi
suite.
Mercredi prochain, on veut des nouvelles.
Donc, Serge.
Oui, j'enchaîne tout de suite, On va de la musique ou...
On enchaîne.
On enchaîne, d'accord.
Musique après.
Alors, Nous célébrons un 50e anniversaire.
Oui,
cette
moi
année.
Aussi tantôt, mais là, oui. Le tien, c'est quoi?
Alors, ça va être controversé un peu, là, je le sais. Ça a déjà commencé avant l'émission. J'ai eu des commentaires de la régie. Savez-vous ce que c'est, le 50e anniversaire de quoi?
Il y en a plusieurs 50e, oui. Hein, 68.
C'est pas une personne, je vous le dis. Non, c'est un produit okay, de consommation.
Non. Un produit de consommation.
Ça mange beaucoup, 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 beaucoup.
Ah, OK. Ah oui, oui. Oh, non, là, je pense que je sais.
Le Big Mac. Ah.
Tout un 50e, ouais. Quand même.
Je me demandais si je devais lire. Finalement, oui, ben oui. C'est ça va quand ça a commencé.
Mais honnêtement, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Peut-être oui, que McDo existe depuis plus longtemps que 50 ans, par exemple.
Je ne sais pas McDo. Hein.
Mais le Big Mac, peut-être. Je ne sais pas. Ouais.
Alors, cette année, le Big Mac fête son 50e anniversaire. Pour l'occasion, les restaurants McDonald's canadiens seulement, proposent pour un temps limité une version avec bacon de leur emblématique sandwich. Encore plus de santé. Mm-hmm. Avant d'y goûter, connaissez-vous tout sur le Big Mac original? Alors, voici quelques faits intéressants. Le Big Mac est si populaire à travers le monde que les économistes ont créé l'indice Big Mac.
Oui, ça, j'avais entendu parler.
Il faut le faire. Il s'agit d'une référence pour comparer le coût de la vie entre pays. Mm-hmm. Ça, je ne savais pas, là, moi.
Oui, j'avais déjà entendu parler ça. C'est dépendamment du coût du Big Mac dans d'autres pays, ça devient une référence pour eux.
Ce n'est qu'en 2012, soit 45 ans après la création du Big Mac, que McDonald's a finalement rendu public le secret de sa sauce spéciale. Tenez-vous bien, ta-da-ta-ta-ta-ta, principalement composée de relish, vinaigre, jaune d'œuf, poudre d'oignon, farine de moutarde, son de moutarde, paprika, curcuma, épices, et etc. Bon. Je sais pas le reste.
Ah, c'est ça, le etc.
Ben, c'est le poivre et d'autres choses. Alors. La même année, McDonald's Canada a publié une vidéo démontrant comment recréer la recette à la maison. Savez-vous que si on mettait bout à bout tous les cornichons contenus dans les Big Mac produits au Royaume-Uni en un an, on pourrait atteindre l'espace plus de 5 fois?
Hey, c'est incroyable. Et je serais curieux de voir aussi si on mettait bout à bout tous les cornichons qu'on enlève des Big Mac parce qu'on les aime pas.
Oui.
Je sais pas jusqu'où on se rendrait, mais on pourrait être surpris.
Mais imaginez, ça c'est pour le Royaume-Uni, imaginez si on faisait ça au Canada. Pour le Canada, mais pour les États-Unis.
Les États-Unis, ouais, c'est pire.
Pour l'Inde, imagine-toi, là-bas, ils sont 1 milliard, quelque chose. Hein. Alors, en 2007, saviez-vous, un musée du Big Mac a ouvert ses portes à North Huntingdon, en Pennsylvanie, pour célébrer les 40 ans du Big Mac. On y retrouve notamment une sculpture de Big Mac faisant 14 pieds de haut.
Wow.
Faut le faire. Selon plusieurs sites et blogs, avant d'être baptisé Big Mac, le sandwich aurait porté 3 autres noms. Risqueriez-vous quelqu'un en régie?
Des noms de hamburger, vraiment, je ne suis pas très familier.
Ouais. Il y en a deux qui... Alors, Maurice, non?
Non, aucune idée.
Donnez votre langue au chat.
Olive, un papaye, non?
Non. Le sandwich aurait porté 3 autres noms, soit The Big Attraction, The Aristocrat, ça, là, je ne comprends pas.
Pour un burger, oui, c'est assez...
Et The Blue Ribbon.
Ah!
Ouais. La source vient de Beef to Live and Thrillist. Source d'information. Ces mêmes sources rapportent que la tranche de pain que l'on retrouve au centre du sandwich y a été mise pour une raison bien précise. Risqueriez-vous une réponse,
pour
Maurice?
Pour tenir les morceaux en place, non?
Non.
Pour absorber l'excédent de gras.
De sauce.
De sauce.
Excédent de sauce, oui.
J'étais pas loin.
Pas loin, pas loin. Un record Guinness a été attribué en 2016 au plus grand mangeur de Big Mac au monde. Celle-là, là, j'avoue, quand j'ai préparé ça
donne mal au cœur un peu.
Il s'agit de l'Américain Donald Gorse, qui en a consommé en tout, tenez-vous bien, 28 788, à raison de 14 sandwichs par semaine pendant 44 ans, à l'exception de 8 jours. Et il serait toujours en santé et vivant. Là,
en santé, mais peut-être un peu d'obésité, un peu de surpoids. Non?
Et vous savez, vous avez sûrement vu dans les nouvelles, les journaux, Monsieur Trump se nourrit au Big Mac.
Oui, ben oui, c'est
parce que
c'est
la seule chose qu'il est sûr de ne pas être empoisonné parce que
pour
les
être
cuisines,
surpris,
ouais, mais personne en tout cas. Truc de pro. En commandant un sandwich McDouble, tenez-vous bien, écoutez bien, un sandwich McDouble sans moutarde ni ketchup, mais en y ajoutant la laitue et la sauce spéciale, on obtient l'équivalent du Big Mac à environ 2 $ de moins.
Ah, c'est un bon truc.
Il faut toutefois être prêt à se passer du petit pain du milieu.
Ah, c'est ce qui explique. Le petit pain du milieu coûte 2 $ finalement.
Le nombre de pays approximatif, là, de pays qui vendent le Big Mac, combien de pays?
Ah, j'ai aucune idée. Il y en a partout 100, dans le monde.
100 pays.
100? Ah, oh, quand même.
520 nombre de calories que contient un Big Mac. Les petits grains sur le dessus, les grains de sésame, il y en a combien? Sur...
Hey, j'imagine que ce n'est pas un nombre exact.
Je suis allé les compter moi-même ce matin avant de m'en venir. Non, pas fait ça. Il y en a 200.
Okay, nombre moyen de graines. Il y en a à peu près 50 dans le fond du
oui,
sac.
Oui, mais c'est ça, oui. Oui. Et le prix du Big Mac lors de sa sortie en 1968, 45 cents.
Ah, quand même.
Eh oui, oui, oui. Ah, voilà l'histoire du Big Mac.
Quand même.
Oui, oui, oui.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.
Classique ce matin, Sex and Drugs and Rock and Roll par Yann Dury and Blockhead.
Sex and Drugs and Rock and Roll. Mm-hmm. Quel hasard, parce que l'article que j'ai trouvé pour vous ce matin.
Je voudrais un petit merci à Maurice qui nous a trouvé. C'est McDonald's, c'est en 1952.
Effectivement.
La création a fait 66 ans.
Donc j'avais raison.
Ben,
le McDo
oui.
est pas mal plus vieux que le Big Mac lui-même.
Oui, oui,
ça
oui,
faisait
ben
déjà un bout, une dizaine d'années qu'il roulait quand ils ont mis le Big Mac sur le marché. Il devait vendre d'autres types de burgers avant, mais avec seulement deux pains.
Merci Maurice.
Merci Maurice. Donc, Sex, Drug and Rock and Roll, un article que j'ai trouvé dans Le Devoir sur un livre qui a été écrit, en tout cas, le titre, c'est Sex, entre parenthèses, consenti, drogue et rock and roll. Et quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit, effectivement, en cette ère de MeToo, mm-hmm. De dénonciation et de tout ça, je me disais, il me semble que dans le milieu du rock, des vedettes de rock, on entend toujours « sex and drugs and rock and roll », ça va mm-hmm. ensemble. Comment eux autres vivent ça? Comment, ouais, comment il va sûrement mm-hmm. savoir brasser à un moment donné. Mm-hmm. Ça se peut pas qu'il reste intact tout le temps.
Non, non.
Donc, un article de Philippe Papineau qui est paru hier, le 27 février, même si les vedettes du monde de la musique ont beaucoup plus le contrôle de leur image avec les médias numériques, qu'ils alimentent souvent eux-mêmes, la transgression continue à les définir, estime la journaliste et auteure française Anne-Sophie Jeanne. Sauf qu'elle croit que le rapport aux femmes et à la violence, lui, est déjà en train de changer. L'excès est consanguin avec le rock, affirme au Devoir la journaliste du Point au Québec pour parler de son livre « Les sept péchés capitaux du rock ». Le sous-titre du livre en rajoute une couche, « Sexe, violence, argent, les nouveaux excès de la musique ». La femme de 32 ans raconte des centaines d'anecdotes autour de stars ayant débordé du cadre dans les 15 ou 20 dernières années. Et ça, c'est rien. J'imagine que s'il était retourné dans les années 60-70, mm-hmm. ça aurait été pire. Anne-Sophie Jeanne se sert beaucoup d'une revue de presse élargie, mais a aussi passé de longues heures à recueillir des informations de première main, parfois dans le cadre de son travail au Point, mais beaucoup en travaillant le soir et les week-ends, se déplaçant à plusieurs reprises et souvent à Londres. Je ne voulais surtout pas apporter de jugement sur ce que les vedettes font, ce n'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est mal, lance celle qui couvre la musique et la culture pop. Mais après, il y a un fil rouge derrière qui montre comment, psychologiquement, la rockstar est contrainte à pécher. Là... un petit peu de misère avec celle-là, mais dans une question d'image. Et qui montre que c'est un sacerdoce. Oui, ça nous amuse, il y a plein d'histoires de potins, mais l'excès est intrinsèque au job. Oasis, le groupe britannique, mm-hmm. y passe comme Jay-Z, Blur, Peter Doherty et Eminem. Anne-Sophie Jeanne fait même un petit arrêt à Montréal lors d'un concert pour le moins éclaté de Mac DeMarco, que je ne connais pas, mais je sais qu'il marche beaucoup. Depuis 5 ou 6 ans, je viens 2 fois par an à peu près à Montréal pour le jazz, des Franco, M pour Montréal. C'est ma bouffée d'oxygène et la scène est incroyable. Le livre n'est pas un essai musical qui propose des théories ou des pistes de réflexion. Il ressemble davantage à un vaste éventail de péchés, parfois véniels et parfois mortels, qui finit presque par nous décourager de l'espèce humaine. Un potin a beau être un document habile. Un potin a beau être documenté habilement, il reste un potin. Mais rien n'est complètement futile, corrige Mme Jeanne. Même dans les histoires marrantes, on peut trouver quelque chose d'intellectuellement nourrissant et qui fait réfléchir sur le monde. D'ailleurs, en entrevue, Mme Jeanne amène de l'eau au moulin de la réflexion quant à ces transgressions dont le récit fait parfois sourciller. Selon elle, le mouvement MeToo et tout ce qui l'entoure va faire évoluer la manière dont les femmes sont traitées dans le rock. On est dans une époque où la parole se libère sur notamment les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, mais aussi physiques. Ne serait-ce que dans la relation entre vedette et journaliste musical, Anne-Sophie Jeanne raconte elle-même avoir interviewé une star qui a insisté fortement pour l'embrasser il y a plusieurs années. Elle n'en avait pipé mot. Récemment, il y a un des membres de Last Shadow Puppets qui a dragué une journaliste, sauf que la fille, elle, en a fait un papier. Elle l'a raconté. Avant, ça ne se serait pas produit. Elle aurait eu honte. C'est vrai, les temps sont en train de changer un peu. Tout n'est pas gagné, croit toutefois Mme Jeanne. Elle donne l'exemple de Bertrand Cantat, qui est le sujet du chapitre le plus documenté et le plus porteur des 7 péchés capitaux du rock. La journaliste s'est attardée à illustrer un véritable système d'omerta sur le fait qu'il frappait des femmes depuis des années. Jeanne espérait que ces révélations libéreraient la parole des victimes, mais elle a été terrifiée de voir que non, ce n'est pas encore gagné, ça prendra encore du temps. Bertrand Cantat, c'est celui qui avait été accusé du meurtre de
la Méridienne.
Le rapport à l'argent est souvent trouble pour les vedettes, raconte Anne-Sophie Jeanne. C'est un peu un miroir exagéré de nous tous. La journaliste donne entre autres l'exemple d'un flambeur en chef, le producteur de Dr. Dre, Scott Storch. Il a produit tous les tubes de R&B des années 2000. Il a claqué toute sa fortune en 6 mois, en fait, en coke. C'est assez terrible. Mais il y a aussi les radins bien connus des patrons de festivals. Les vedettes, même multimillionnaires, sont souvent exigeantes en ce qui concerne les loges. Mais en fait, ils font leurs courses, ils demandent des tonnes de trucs qu'ils emportent après pour remplir le camion de tournée. Ce qui peut être l'équivalent pour le commun des mortels de partir avec le shampoing de l'hôtel à la fin des vacances. Imagine un peu. Les sept péchés capitaux du rock, sexe, violence, argent, les nouveaux excès de la musique, écrit par Anne-Sophie Jeanne sur édition Flammarion. Et j'ai vu ce matin, tantôt, je n'ai pas eu le temps de le lire, Nathalie Petrovski faisait un article aussi sur ce livre. Mm-hmm. Je vais le lire tantôt. Okay. On est de retour avec les voix de service et l'article dont je vous parlais tantôt, je viens de le retrouver dans la presse, ça s'appelle « Sexe, drogue, misogynie et omerta », l'article de Nathalie Petrovski, celui que je vous ai lu tantôt, c'était celui du Devoir d'hier, mais aujourd'hui dans la presse, Nathalie Petrovski parle de ce livre aussi. Et Serge, de quoi allez-vous nous parler maintenant?
Oui, dans l'itinéraire, la semaine dernière, j'avais commencé à lire des petits articles écrits par Yannick Larouche, qui est le camelot au métro Beaubien. Et il nous parlait, juste en sortant du métro Beaubien, vous avez un graffiti. Quand vous sortez du métro où on entend l'autobus Beaubien, c'est sur le côté, c'est pas sur la rue Beaubien, c'est sur le côté de la petite rue. Là. Il dit « Enfin, un beau graffiti qui reste là. Je n'y aurais pourtant pas donné deux semaines. Avant, une autre peinture d'avion de chasse, que je ne trouvais personnellement pas bien belle, servait à cacher des dessins pires encore. On l'a finalement remplacée par celle-ci, qui fait une très belle murale, effectivement. Cette peinture représente très bien le coin avec toute l'histoire de la rue Saint-Hubert. Ça fait revivre le quartier et ses époques. Les anciennes lumières néons mettent de la vie dans le dessin. Ils ravivent le souvenir d'un magasin oublié d'autrefois, Greenberg's.
Ah oui,
le magasin Greenberg's et Steinberg. Elle est Steinberg. Deux enseignes disparues depuis quand même plus de 20 ans. Et le premier magasin Corbeil, ouvert en 1949, qui est sur la Plaza. Alors, celui qui existe toujours encore et sur la même artère. Ensuite, il nous parle de la Plaza Saint-Hubert. La Plaza Saint-Hubert. La Société de développement du développement commercial de la Plaza Saint-Hubert a été créée en 1981. Elle est responsable de toutes les activités dont la populaire vente de trottoirs, atmosphère sur la Plaza, de la marquise Verrière construite en 1984 qui abrite les deux côtés de la rue de Bellechasse à Jean Talon. Apparemment, c'est assez unique, ça, dans le paysage nord-américain, semble-t-il. Ce tronçon compte 400 magasins et services en tout genre et plusieurs établissements populaires, dont la piscine Saint-Denis, construite en 1910. La Plaza est particulièrement connue pour ses magasins de robes de mariée.
Ah, OK.
Commerce de robes de mariée. C'est vrai, quand je passe des fois sur Saint-Hubert, je vois ça, il y a beaucoup vraiment de...
C'est pratique, dans le fond, oui. Ceux qui vont magasiner peuvent faire tous dans le même coin.
Oui. Alors, c'est l'une des principales artères de Montréal. Elle attire plusieurs milliers de touristes chaque année. Petite note, anecdote personnelle. Quand j'étais petit, quelqu'un, une femme qui avait une coiffure assez élaborée, très frisée, là, tu sais, quelque chose qui montait.
Une afro,
là,
genre.
On disait qu'elle avait une plaza sur la tête.
Ah, OK. Parce que c'était complet, là, c'était tout là.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses et je s'était fait faire ça sur la plaza.
C'était fourni.
Dans les pièces de Tremblay, j'ai déjà entendu ça les personnages. Elle a une plaza sur la tête, celle-là.
OK, donc c'est une expression locale.
Oui, elle avec sa plaza sur la tête, elle ne viendra pas nous faire bip-bip. Là. Bon. Il y a une église au coin de Saint-Denis-Beaubien, l'église Saint-Édouard, sa construction a commencé en 1901 et s'achève 9 ans plus tard. Ce qui a toujours impressionné notre camelot, ce sont les immenses orgues de cette église. Celui de cette église fut fabriqué en 1913. Et ce dont il se rappelle le plus, ce sont les Noëls qu'il y a passés pour la messe de 22 heures. Il aimait entendre les chorales et le son étincelant du minuit chrétien. À la sortie, on entendait à l'extérieur le son frappant des cloches. Le clocher de l'église a été installé en 1922. De style néogothique, il s'élève à plus de 60 mètres de haut. Et personnellement, dit-il, il le trouve magnifique. J'ai des petites, pour compléter,
ben oui, on a quelques...
des choses de Churchill, ça fait longtemps.
Oui, oui, on l'aime beaucoup.
Bon, il y en a une, je vais vous la lire très lentement, parce que vraiment... là.
Bon, parce qu'on n'est pas vite.
Non, c'est qu'elle est très... Il faut y penser.
On va prendre une chance.
Alors, il faut se souvenir qu'il a dit ça avant 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale, okay. Alors que l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'URSS étaient dans un domaine... Bon. Alors, il dit, « En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Ah, » L'esprit c'est... britannique.
Non, mais c'est bien.
Ouais. Oui. « En Allemagne de cette époque, en Allemagne, sous le régime hitlérien, tout est interdit, sauf ce qui est permis. »
OK.
« En France, tout est permis, même ce qui est interdit. » Et en URSS, tout est interdit, même ce qui est permis. Alors voilà, le
on
système
de
politique de l'époque. Oui.
On va essayer de la comprendre au courant de la journée.
Et Churchill disait aussi, le secret de ma vitalité, je n'ai dans le sang que des globules rouges, l'alcool a tué le pupille d'urètre, mes globules blancs. Il buvait pas mal, hein?
Et ceci met fin à l'émission Les Voies de service du 28 février. On vous retrouve la semaine prochaine avec Isabelle Falardeau, Serge Bradet et Daniel Lachance.